Alors, je suis donc historienne de la ville. J'ai commencé à travailler sur la ville de Paris en m'intéressant aux relations entre Paris et la Seine. Et donc, tous les chantiers que j'ai menés sont animés de la double préoccupation de comprendre la transformation du bâti et celle du social, en privilégiant finalement les interactions qui peuvent exister entre les deux, et notamment celles que les acteurs observés postulent. Donc, aménager l'espace, transformer la société, c'est bien le double objectif qui est examiné dans le livre, et je l'ai dit plus particulièrement au moment où l'opération rentre dans les faits, c'est-à-dire dans le contexte de Vichy. Partant de l'histoire urbaine, au fil de l'enquête, j'ai finalement réélaboré aussi des questionnements qui permettent notamment de revisiter l'approche de la persécution antisémite à Paris, et c'est les travaux sur lesquels maintenant je vais davantage travailler. J'y reviendrai juste en conclusion. Alors, qu'est-ce que l'espace parisien, j'ai souvent tendance à dire le morceau de ville sur lequel je travaille, est donc un îlot, l'îlot 16. Alors, un îlot en termes d'architecture, c'est des immeubles entourés par quatre rues, mais là, ce sont des îlots qui dépassent largement cette définition strictement architecturale. C'est une liste qui a été fixée par la préfecture de la Seine, qui, je le rappelle, jusqu'en 1977, préside donc aux destinées de la ville. Cette carte des îlots insalubres est fixée en 1920. Elle a été établie à partir de ce qu'on appelait le casier sanitaire. À partir de la fin du 19e siècle, chaque immeuble parisien est visité. On fait un état des lieux, on décrit l'état de conservation des maisons et on observe également les statistiques de mortalité, notamment de mortalité par tuberculose. Et là, c'est là que les hygiénistes dont Maruccio a parlé sont en pleine activité. On décide que dans ces 17 îlots insalubres, il y a une mortalité par tuberculose supérieure à ce qu'il y a dans d'autres immeubles parisiens. Alors, celui qui m'intéresse, vous voyez, le numéro 16, il borde la Seine. Il est donc au sud du quartier du Marais, qui sera dessiné en 1964, tel qu'il existe donc aujourd'hui. Et si on change d'échelle, vous avez donc la Seine qui est ici, l'île Saint-Louis. Là, c'est le 4e arrondissement. Et en bleu, le quartier Saint-Gervais, qui est un des quatre quartiers administratifs du 4e arrondissement. Et l'îlot 16, c'est donc la moitié, en gros, du quartier Saint-Gervais, au sud de la rue François-Miron et de la rue Saint-Antoine, avec la Seine. Ici, l'église Saint-Gervais. Et je ne sais pas si c'est là, j'arrive pas à voir. Vous avez juste l'hôtel de ville qui est ici, ça a quand même son importance. Et ici, la rue Saint-Paul. Donc, ça fait à peu près 16 hectares. Donc, c'est un petit bout de ville sur lequel j'ai jeté mon dévolu. Cet îlot insalubre, l'îlot numéro 16, fait donc partie de ce qu'on a appelé la question des îlots insalubres à partir du début du XXe siècle, une question lancinante dans la capitale. Finalement, une question qui a subsisté largement, c'est pour ça que mon livre va jusqu'en 1980, c'est-à-dire qu'à Paris, encore dans les années 60 et 70, quand on rénove certaines parties, notamment Belleville par exemple, c'est aussi parce qu'il y avait un îlot insalubre, c'est-à-dire que dans les archives, on retrouve encore cet argument de l'îlot insalubre, c'est une catégorie de politique publique qui va avoir l'habitude. Alors, il faut préciser que les îlots insalubres sont intimement lié, enfin cette question donc des îlots insalubres est intimement liée au déficit de logement à Paris, dans l'esprit des édiles de l'époque. Non seulement il y a pénurie de logements, mais il y a aussi des logements en fort mauvais état. Et là, il faut se rappeler que pendant la guerre 14-18, un moratoire des loyers parisiens a été pris pour préserver les familles dont le mari ou le chef de famille était décédé et pour qu'il puisse rester dans le logement. Et ce moratoire qui va subsister pendant tout l'entre-deux-guerres, des loyers qui sont bloqués, des propriétaires donc dans cet îlot insalubre qui sont en général propriétaires de l'immeuble entier, il faut bien se rappeler quand même cette structure de la propriété, et des propriétaires qui n'habitent pas dans l'immeuble en question, qui souvent ne sont pas parisiens, et qui donc tirent assez peu de revenus de ces immeubles. Par ailleurs, l'îlot 16 a la réputation, alors là j'ai mis des textes de l'époque, on va dire, opérationnelle à laquelle je me suis, qui constitue finalement le cœur du livre, mais depuis le début du XXe siècle, l'îlot 16 a la réputation d'être un ghetto juif en plein Paris. On trouve toutes sortes de descriptions dans la presse, dans des revues illustrées, dans des revues scientifiques, notamment celle, la revue archéologique La Cité du 4e arrondissement, où on explique, on décrit les tenues, le langage, c'est-à-dire le yiddish, et le fait que ce soit à tout près, à deux pas de l'hôtel de ville, que ce soit absolument peu tolérable. Enfin, dernière, une autre caractéristique de l'îlot insalubre par rapport à la carte, de l'îlot 16, pardon, par rapport à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez vu qu'il est en plein centre de Paris, et qu'il abrite, comme Vincent l'a rappelé tout à l'heure, un bâti ancien qui date de l'époque où, finalement, le roi de France s'était installé dans cette région de Paris et où, au fil des siècles, tout un bâti ancien, des hôtels aristocratiques se sont construits. Il y a un certain nombre d'hôtels dans l'îlot 16, l'hôtel de Beauvais, l'hôtel d'Aumont, qui, au XXe siècle, à l'époque qui m'intéresse, sont en piteux état. J'ai retrouvé toute une série de photos. Certains sont même pas encore classés. Voilà, il y a ce bâti ancien, mais qui n'est pas encore protégé par les monuments historiques. Donc, dans le livre, je montre comment cette double réputation, et je tiens au terme, d'insalubrité et de ghetto, est utilisée pour justifier l'aménagement de l'îlot 16. Alors qu'il n'est, il faut encore que je le précise, que le 16e sur la liste. La liste va de 1 à 17 et elle va en ordre décroissant de nocivité. Donc, la question qui est au cœur du livre et en fait qui était au cœur de mon acharnement à comprendre ce qui s'était passé, c'est pourquoi alors qu'il est le 16e, pourquoi est-ce qu'il a été le premier à faire l'objet quasiment d'une opération aussi radicale? Alors là, bon, juste, ceux qui ont disparu dans l'entre-deux-guerres, c'est ces deux-là. On a trouvé un cas de peste dans celui-ci. Donc là, on a tout rasé. C'est le square Clignancourt. Mais vous voyez, ils sont quand même plus modestes. Et ce qui a commencé aussi à être aménagé dans les années 30, c'est, alors, il y a des velléités autour de l'îlot 4. Hein, c'est celui qu'a étudié Henri Coin, qui est un sociologue qui a travaillé sur la rénovation urbaine. Et puis, au début des années 30, on détruit une partie de l'îlot numéro 1. C'est-à-dire que c'est le plateau Beaubourg, hein, qui va rester vide des années 30 jusqu'à la construction du centre Beaubourg. Mais vous voyez qu'il n'y en a aucun qui a fait l'objet réellement à la fois d'une destruction ou d'une réhabilitation ou d'une transformation. Alors, l'insalubrité, donc je parle de réputation, cette insalubrité est mise en cause de façon contemporaine, je dirais, de l'époque qui m'intéresse, les années 30 et les années 40. Ici, vous avez différentes citations, aussi bien la presse que Albert Laprade, qui est un grand architecte qui va d'ailleurs travailler sur l'îlot 16. Et vous voyez, bon, j'aime bien la façon dont Laprade présente les choses, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il existe des milliers de taudis dans Paris, et que il voit pas pourquoi c'est ceux de ces 17 îlots qui particulièrement mériteraient un traitement particulier. C'est pour ça que, me fondant sur à la fois ces perceptions donc et ces jugements des témoins de l'époque, mais également sur la façon dont les documents qui sont dans les archives et qui traitent l'îlot 16 sont rédigés et sont présentés. Là, vous avez quand même, on va dire, il faut pas se laisser abuser par là. Évidemment, il y a écrit « îlot insalubre numéro 16 ». Donc, c'est une catégorie qu'on peut prendre pour acquise et qu'on ne discute pas. Or, les immeubles qui sont décrétés insalubres, c'est ceux qui sont en jaune. Alors déjà, on peut constater quelque chose, c'est qu'ils sont loin d'être majoritaires. Et les marrons, la légende dit « immeubles dont la suppression doit être envisagée ». Alors évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Bon, est-ce qu'il mérite des travaux? Mais vous voyez qu'avec cette gradation, il n'y a pas insalubre et salubre. Il y a immeuble dont la suppression doit être envisagée. Et c'est ce type de documents qui ont été réalisés et mis au jour hein, régulièrement, là à la veille du lancement de l'opération, qui attirent l'attention sur le fait qu'il faut manipuler ces catégories avec prudence. Alors, l'îlot 16, comme les autres, donc, est voué à être rasé, mais la plupart des opérations, je l'ai dit, sont en panne dans l'entre-deux-guerres, pour des raisons financières, principalement. Il faut L'îlot 16, c'est environ 400 immeubles à exproprier, 12 000 habitants à expulser et près de 400 commerçants. Et les raisons financières, c'est que on n'envisage pas d'attaquer l'îlot 16 sans verser des indemnités aux propriétaires, des indemnités aux locataires, de reconstruire quelque chose, enfin en tout cas d'avoir les moyens de faire les travaux, et, dernier point très important, de reloger les locataires. Ça, c'est dans tous les textes, hein, j'en cite de nombreux, c'est inenvisageable. Ça, donc c'est les raisons financières qui bloquent l'opération. Deuxième type de frein, c'est l'opération est également freinée parce qu'elle est au cœur de débats. À coup de mobilisation dans des revues savantes et des pétitions adressées ici au maréchal Pétain, et d'ailleurs dans cette pétition, il est aussi question de sauver l'église Saint-Germain-des-Prés parce qu'on repense à prolonger la rue de Rennes, t'en parlais tout à l'heure. Et donc, cette pétition qui est envoyée, alors là, vous voyez pas grand-chose, c'est un peu un effet, mais j'ai recopié tel que ça se présente, vous voyez, donc par grandes institutions, Académie française, institutions, instituts, médecins, vous constaterez que quelque part, je ne le vois pas là, voilà, dans les professeurs au Collège de France, qui n'est pas souligné, vous avez Lucien Febvre, et donc, et d'ailleurs, Lucien Febvre publie un tout petit texte dans les annales à propos de l'îlot 16 en disant qu'il faut préserver le vieux Paris. Donc là, vous avez une mobilisation, je dirais, on va dire, d'intellectuels hein, dans différents sphères et univers qui se mobilisent pour qu'on ne rase pas l'îlot 16. Et c'est mobilisé. S'oppose aux tenants de la table rase. Alors, les tenants de la table rase, c'est des architectes, j'ai pas mis de photo ici parce que, qui sont dans le mouvement de l'architecture moderniste, derrière Le Corbusier, et qui envisagent, donc, d'élargir les rues, notamment celles qui sont dans le prolongement des ponts, et de totalement reconstruire la totalité de l'îlot 16 en maintenant quand même les deux églises. Elles sont, et puis, l'étonnant de la table rase, c'est la préfecture de la Seine et l'administration de la préfecture de la Seine. Je vous ai montré tout à l'heure que l'hôtel de ville était proche. Et jusqu'à décembre 38, il y a des projets pour construire une annexe de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville n'a pas assez de locaux. C'est l'annexe qui sera construite entre les années 50 et le début des années 60 par le même Albert Laprade. C'est le centre Sully Morland qu'on vient juste de vider et dans lequel on va réinstaller des logements, un hôtel de luxe et je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, l'annexe, ça sera Sully Morland. Mais là, avec l'îlot 16, il y a une opportunité hein, pour avoir avec du foncier tout prêt et agrandir l'hôtel de ville. Alors donc, il va y avoir une bataille, des revues, des pétitions, et on va finalement décider de procéder à ce qu'on appelle un curetage. Un curetage, c'est un terme médical, ça veut dire qu'on supprime toutes les constructions postérieure à la date de construction des bâtiments, que ce soit 17e, 18e ou 19e. Ça veut dire qu'on supprime les hangars, les garages, les ateliers qui s'étaient accumulés dans les vides du bâti ancien, notamment dans les jardins ou dans les cours des hôtels, pour abriter, et là on retrouve peut-être un peu le thème du séminaire, pour abriter la population laborieuse qui était arrivée massivement à Paris à la fin du 19e siècle, une population laborieuse qui venait notamment d'Europe centrale et d'Europe orientale, des gens qui s'étaient installés, qui y logeaient, mais qui avaient aussi des ateliers dans les logements. Hein. On avait eu donc finalement une densification du bâti. Et les hygiénistes, ceux qui tenaient hein, pour la catégorie d'îlot insalubre, considéraient que cette densification empêchait la lumière et l'air de circuler et que c'était ça qui entretenait l'insalubrité. Alors, maintenant que je vous ai présenté un peu le territoire, l'îlot 16 est pour moi finalement un formidable laboratoire, c'est pour ça que j'ai fait une enquête qui a duré un certain temps, un formidable laboratoire pour l'historienne de l'urbain, précisément en raison de ce désaccord qui existe au XXe siècle, un décalage finalement entre son bâti, qui incarne le vieux Paris avec des hôtels aristocratiques, des églises, et la population qui l'occupe, au XXe siècle. Un désaccord et un décalage qui est extrêmement fréquent dans la ville du XXe siècle. Hein. Mais là, on va user de cet argument Et pour des raisons que j'analyse dans le livre, ils sont nombreux, aussi bien l'administration préfectorale, les élus municipaux, les architectes, des savants et des érudits, à vouloir rétablir une forme d'accord, c'est-à-dire un, et on le trouve donc, voilà des citations, là en haut, Michel Rouspitz, qui sera un des architectes qui va travailler sur l'îlot 16 à partir de 42. Et Guy Perrier de Ferral, qui est le secrétaire général de la préfecture de la Seine, vous voyez que tous les deux convergent vers cette idée que, puisque le bâti de l'îlot 16 est prestigieux, à condition qu'il soit retapé, cureté et nettoyé, eh bien, on va y installer une population de savants. Alors, vous avez la description de Perrier de Ferral qui est assez édifiante. Donc, on va y installer des savants, des intellectuels, des artistes. Et donc là, on est vraiment dans la poursuite d'une coïncidence entre le social et le matériel. Donc la question, je l'ai dit tout à l'heure au cœur du livre, c'est pourquoi l'îlot 16, doté de toutes les spécificités que je viens de décrire, devient-il prioritaire à partir de 41? Effectivement, l'opération est lancée à partir de décembre 41, c'est la date de lancement du premier arrêté d'expropriation, sachant que dans les mois qui ont juste précédé, Vichy, l'avantage de Vichy, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir législatif. Donc, on change les lois très vite et très simplement. Et donc, ils ont pris plusieurs lois qui permettent au préfet de la Seine de réquisitionner les immeubles encore plus rapidement que si on fait une expropriation pour cause d'utilité publique, qui permettent surtout, une des lois, de décider que, vous avez vu le découpage de l'îlot 16, tous les immeubles vont être traités de la même manière. C'est-à-dire qu'un propriétaire d'un immeuble qui n'est pas insalubre, ne pourra pas résister. La loi décide que le périmètre est celui de des îlots dessinés en 1920. Et si, alors là évidemment je vous donne très vite les clés, hein, mais j'ai découvert ça progressivement, si l'opération est lancée à partir de décembre 41, c'est parce qu'elle s'appuie sur l'antisémitisme légal de Vichy qui se met en place à partir de 1940, et un des objectifs finalement du livre, c'est comprendre comment deux politiques publiques se sont adossées à partir de 41. L'une édilitaire, c'est-à-dire une politique d'aménagement urbain, et l'autre antisémite. Hein. Et là, je mets quelques lois donc et quelques dates importantes dans la destinée de l'îlot 16, croisées avec des dates importantes de la mise en œuvre de la persécution à Paris. Alors, j'ai travaillé sur certains aspects du dossier avec Sarah Gainsburger, qui est sociologue, spécialiste la persécution anti-juive. Et nous avons mis au jour, on a publié des articles à ce sujet, ce qu'on a appelé un effet domaine. Je résumerai ça assez vite. L'idée, c'est que l'administration, convaincue que l'îlot 16 était un ghetto, se dit... Voilà une occasion rêvée pour lancer l'opération, puisque nous allons échapper à la fois aux indemnisations, les familles sont absentes, et au relogement. Et l'enquête que j'ai menée en partie avec Sarah montre que d'abord il y a des acteurs qui suivent les deux dossiers, c'est-à-dire la mise en œuvre de la persécution antisémite et l'îlot 16. Je ne citerai que Charles Reverdy, directeur des affaires économiques et sociales à la préfecture de la Seine. Il chapeaute l'opération urbaine de l'îlot 16 très haut, hein, parce que le bureau de l'îlot 16 fait partie dans l'organigramme de sa compétence. Et c'est lui qui organise le camp de Rancy, au moment, donc, juste avant la rafle, à partir de mars 42, avant la rafle du Veldiv. Par ailleurs, chaque famille, dans les dossiers d'indemnisation, ça, c'est aussi, excusez-moi, l'avantage de l'opération urbaine, c'est que on a des dossiers assez conséquents qui permettent d'avoir un profil sociologique de l'îlot assez précis. Chaque famille doit remplir une déclaration raciale. Ici, vous avez la déclaration raciale de Maurice Solanic. Elle a encore, c'est l'avantage, si je puis m'exprimer ainsi, de Vichy, c'est que dans aucune archive française depuis 1872, vous ne trouvez la confession des gens, hein, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Là, de nouveau, on doit déclarer le fait qu'on est juif ou pas. Ce qui permet, parce qu'on n'a pas du tout travaillé sur l'onomastique, c'est-à-dire qu'on refuse de décider que quelqu'un est juif d'après son nom. Ça, c'est trop périlleux. il y a quand même une marge d'erreur trop importante. Donc il fallait qu'on trouve soit la déclaration, soit simplement la mention que la famille était internée à Drancy. Là, il y avait quand même plus de doutes. Donc chaque famille a rempli cette déclaration raciale. On a fait une petite base de données, ce qui a permis d'évaluer la population juive de l'îlot à 23% des familles. 23%, c'est un ghetto, mais il n'y a que 23% de familles juives. Mais ce qu'on a fait, et c'est là que la spatialisation des données est vitale, parce qu'au début, cette carte, bon, elle ressemble à quelque chose parce qu'elle a été faite d'abord par un étudiant, j'avais quelques vacations pour le rémunérer, et puis ensuite c'est Anne Barévitu qui a continué à travailler sur cette cartographie. Au début, j'ai commencé avec mes crayons de couleur. J'ai constaté quoi ? J'ai constaté que cette répartition des familles juives était très inégale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de familles juives à l'est de l'îlot. Hein. Si vous prenez par exemple ici la rue des Jardins Saint-Paul dans les opérations, alors ça c'est les sous-opérations, c'est les arrêtés d'expropriation successifs. Vous voyez, ils ont découpé l'îlot 16 pour exproprier progressivement. Et si vous prenez les opérations 6A et 6B, là effectivement, il y a à peu près 80% des familles qui sont juives. Et cette carte, ce fond de carte hein, que j'ai réutilisé, ça c'est un fond de carte qui vient donc des archives, qui date de 41. Je l'ai réutilisé donc ici pour donner la composition en termes donc de nombre de familles juives. Mais ce qu'on a constaté après dans le déroulement de l'opération, c'est que l'ordre initial qui avait été prévu a été modifié. C'est-à-dire que là vous aviez l'opération qui a été lancée en premier, ensuite en deux, ensuite en trois. Et ce qu'on a constaté, c'est que la troisième n'a pas été celle-là. La troisième opération qui a été lancée, c'est celle-ci. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'ils ont repéré les opérations et les secteurs de l'îlot où il y avait le plus de familles juives, ils ont modifié l'ordre d'expropriation, tout simplement pour être sûr de tomber sur des immeubles qui étaient en partie vides, avec des familles absentes, arrêtées ou en fuite, qui ne bénéficieraient pas d'un dossier administratif et donc d'une indemnisation. Les comptes rendus d'éviction, ici celle du 23 janvier 49, vous voyez ce qu'on peut lire, l'opération 9 d'éviction de l'îlot Assel numéro 16, donc concernait la rue de Brosse, la rue de l'Hôtel de Ville et la rue, oui c'est ça, et la rue de Brosse, il se répète. Et là, les comptes rendus commencent assez systématiquement par les Israélites internés ou absents, donc on a leur nom, ils ont été déménagés d'office, les scellés apposés sur le domicile, ça c'est les Allemands qui apposaient les scellés sur les appartements juifs qu'ils avaient vidés de leurs meubles. Donc là, on est sûr que les deux premiers paragraphes concernent des familles juives. Mais on a aussi utilisé, pour localiser et comprendre qui était juif, une source qui est absolument superbe pour Paris et qui est maintenant quasiment disponible pour toutes les écoles. C'est les registres des écoles. Où là vous avez, alors là c'est que la page de droite, mais la page de gauche c'est le nom de l'enfant, sa date de naissance, la profession des parents, la nationalité, et vous voyez que là pour deux enfants vous avez, il y a écrit aucun renseignement, et là il y a écrit juillet 42, c'est vraisemblablement des enfants qui ont été arrêtés pendant la rafle du Vel'Hiv, l'école de la rue Neuf-Saint-Pierre jouxte l'îlot 16. Donc ça nous a permis aussi de localiser pour certaines familles ce qui avait pu leur arriver. Au total, je vais assez vite, près des deux tiers de la population d'îlot 16 est donc évincée, je précise, juifs et non-juifs, c'est-à-dire qu'on a expulsé toutes les familles. Alors que, et c'est ce décalage des temporalités qui, évidemment, là encore, m'a poussé à creuser pour comprendre ce qui s'était passé, alors que les travaux ne vont pas commencer. C'est-à-dire qu'on a expulsé la population avec un zèle et une efficacité particulière. Alors que là, si je prends l'exemple de la rue Geoffroy-Lagnier, le 24, vous voyez qu'en 1941, on a un hôtel. Alors attention, là c'est un hôtel, c'est un garni. Il y avait beaucoup de garnis qui accueillaient des gens à la semaine, voire au mois. Alors, malheureusement, on n'a pas les registres des garnis qui étaient à la préfecture de police, ils ont tout balancé, même avant de déménager. Mais il y a des photos, bon, les hôtels étaient, les garnis étaient dans l'œil de mire de la préfecture. Ils voulaient se débarrasser de tous ces immeubles qui entretenaient finalement la mobilité de la population et l'instabilité de la population, même s'il y en a qui étaient quasi souvent résidents de long terme. Vous voyez qu'on a détruit cet immeuble. Bon, c'est difficile de dire qu'il était en bon état ou pas, mais il n'était pas pire que d'autres. Ce qui se passe en 1957, c'est qu'on n'a toujours rien fait, donc on est obligé d'étayer parce que ça fragilise les deux immeubles voisins. Et vous voyez qu'en 1976, il faut quand même se rappeler, Vincent disait que le Marais aujourd'hui c'était un des quartiers les plus... C'est vrai que c'est un des quartiers les plus chers de Paris, mais dans les années 70, c'était pourri. Voilà, c'était pourri. Donc, ce qu'il fallait, c'était acheter dans les années 70. Voilà. En fait, j'ai parlé de curetage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois architectes qui ont été nommés en 42, dont Ruspitz, Danis et Laprade. Et ils ont fait, on va dire, un plan général d'orientation. Et donc, ils ont décidé ce qui devait être détruit et ce qui devait être cureté. Ce travail, finalement, assez précis sur un espace urbain, sur un espace circonscrit, permet finalement de mettre en valeur les logiques qui sous-tendent l'aménagement urbain, qui sont bien éloignées des discours tenus par certains acteurs, qui, si on les suit, nous racontent que Vichy, et parfois les chercheurs ont tendance à leur emboîter le pas, nous raconte que Vichy a fait œuvre à l'image de son idéologie de respect de la tradition, on respecte les vieilles pierres, tout en modernisant le cœur de Paris. Mais à partir du cas de l'îlot 16, et ça je l'ai découvert un peu plus tardivement, l'adossement de cet aménagement urbain sur les opportunités, si je puis m'exprimer ainsi, ouvertes par les lois raciales, s'est confirmé à l'échelle de tout Paris. Alors là, j'ai pas fait l'enquête, mais j'ai des indices. À partir de l'étude d'un cas, j'ai découvert qu'il se cachait derrière donc l'aménagement de l'îlot 16, sur lequel j'ai enquêté très précisément, une politique publique qui concernait une grande partie des îlots insalubres. Voilà ce dont je me suis rendu compte, et ça a été assez tardif. Vous avez là, en plus de l'îlot 16, 7 îlots insalubres. J'ai mis leur arrondissement, et j'ai surtout repéré les dates des cartes qui figurent l'insalubrité des immeubles, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et la mise à jour de ces documents. Et le deuxième indice qui montre que certains îlots sont dans le viseur de la préfecture de la Seine, c'est des visites sanitaires qui sont faites par les architectes voyers. Et donc je constate que 7 îlots en plus de l'îlot 16 ont fait l'objet, on va dire, de velléités administratives. Or, on peut dire que là, on a une véritable montée en généralité, parce que l'opération de l'îlot 16 donc n'est pas isolée d'abord. Ensuite, ces îlots qui sont, pardon, je dois avoir une carte. Voilà, là je les ai mis en rouge, hein, ceux qui sont donc concernés. Ces îlots qui sont en grande partie dans l'est de Paris, 11e arrondissement, 20e arrondissement. Si on prend les travaux, le peu de travaux qui existent sur les Juifs à Paris, ils concentrent la plus grande partie de la population juive parisienne. C'est donc une preuve. Une première preuve, on va dire, qu'une politique publique de grande envergure devait être déployée dans l'espace parisien en profitant de la fragilité de la population juive et de l'argument sanitaire des îlots insalubres. Le temps a manqué pour mettre en œuvre ce projet. Par exemple, quand au pavillon de l'Arsenal où j'ai trouvé les photos sur l'îlot 16, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il y a aussi des photos sur mes autres îlots. Alors, la cité de passage Bulourde, qui est donc dans l'îlot 6, elle est en noir là sur cette carte, eh bien, j'ai effectivement trouvé des photos. Donc vous voyez qu'ils font une campagne de photos en février 43, donc comme dans l'îlot 16, et il ne se passe rien. Ici, en avril 54, le passage, vous voyez, c'est la même vue, et cette photo est absolument géniale avec ces gamins qui regardent le photographe. Depuis, ça a été rénové, vous avez des immeubles modernes qui datent des années 60-70. Donc, au-delà de Paris, on peut citer le cas de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez Marseille et le Vieux-Port de Marseille. L'opération Sultan, qui a été menée dans le quartier du Panier du Vieux-Port en janvier 43, qui repose sur la même articulation entre dénonciation de l'insalubrité et volonté de chasser les populations. Donc là, vous voyez, là, c'est une revue qui s'appelle Marche, une revue vichiste. Là, vous voyez, vous avez le balai, hein, on va tout nettoyer. Là, vous avez l'architecte Baudouin qui s'en est occupé, et j'ai réussi à établir que Baudouin connaît Grébert et des architectes qui ont travaillé sur l'îlot 16, donc les idées circulent. Et sauf que, bon, à Marseille, les choses ont été beaucoup plus radicales. En janvier 43, donc l'opération Sultan est menée, les populations sont arrêtées, et il y a toute une série de photos qui sont disponibles sur Internet, qui sont des photos allemandes. Donc, vous voyez que là, vous avez la police française et les Allemands qui, font évacuer les immeubles. et je crois que j'en ai mis une seconde, il y a plusieurs centaines de Juifs qui seront déportés suite à l'expulsion. Et il y a aussi des photos, pour finir, sur Marseille, qui montrent qu'ils ont fait sauter directement à la dynamite tout le quartier. Rien de tel dans l'île aux 16. On n'a pas eu, même si dans les documents, je les cite, il y a les Allemands qui veulent tester des explosifs pour détruire les immeubles de l'île aux 16. Et là, il y a les monuments historiques qui disent non, attendez, là, on va pas faire ça parce que ça risque de fragiliser les bâtiments. Bah là, il y a des photos où on les voit installer la dynamite et là, ils l'ont fait. Alors, au sortir de la guerre, les immeubles de l'île aux 16 ont été vidés de leur population, pour 2/3 d'entre eux, mais ils sont immédiatement réinvestis par des réfugiés, probablement des réfugiés notamment de Caen, c'est probable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui refluent vers la région parisienne, et des sinistrés de la région parisienne, puisque Paris, le 18e arrondissement a été bombardé, qui ont besoin d'un logement, et qui sont donc réinstallés dans les immeubles qui ont été vidés avec un bail précaire. Avec un bail précaire, ça veut dire vous devez partir dès qu'on décide d'aménager l'immeuble qui a été antérieurement exproprié. C'est pour ça que mon enquête va jusqu'en 1980 et que je plaide en faveur d'une chronologie élargie pour aborder aussi la question de la persécution. En effet, c'est le dernier document que je montrerai d'archives. Bon, il est quasiment illisible, vous allez me croire sur parole, mais il est quand même dit les locaux vacants de l'îlot insalubre numéro 16, aussi bien logement que boutique, les Israélites, les sinistrés et d'une manière générale tous les sans-logis dont la situation est particulièrement digne d'intérêt. Mais après, il est dit, cependant, ces relogements ne pourront s'effectuer dans les appartements qui étaient précédemment occupés par des Israélites, le retour de ces derniers étant à envisager éventuellement. Ce document est daté de novembre 44. C'est le seul document où j'ai trouvé une désignation des Israélites en tant que groupe différent des autres. Les Israélites donc constituent une catégorie à part sous la plume de cet homme donc en novembre 44 après la libération de Paris, alors que donc je n'ai jamais trouvé ce type de désignation. Par ailleurs, vous voyez que Deneuve, un homme qui est à la manœuvre pendant toute l'opération, exclut les appartements juifs d'une éventuelle réattribution, pensant qu'ils sont susceptibles de revenir. Or, finalement, c'est une sorte de lapsus administratif, parce que ceux qui ne sont pas juifs et qui ont bénéficié d'un dossier administratif et d'une indemnisation, ils n'ont aucune raison de prétendre à revenir. Alors que les familles juives qui étaient absentes et qui ont, pour qui c'est un blanc, hein, et qui n'ont pas eu de là, ils veulent revenir. Et donc là, voilà, ce simple petit document qu'on trouve comme ça au hasard dans un océan d'archives, c'est quasiment un aveu de l'administration que les occupants juifs ont été dépossédés de leur appartement et qu'ils ont une forme de légitimité à y revenir. Alors donc là, ils n'ont pas envie d'avoir d'ennui, donc ils disent vous remettez personne dans les logements antérieurement occupés par des familles juives, parce que si jamais ils reviennent, ça fera moins de vagues. Alors, je terminerai simplement en insistant sur quelques points de méthodologie plus généraux, au-delà de ce cas. On a parlé de représentation, de insalubrité, je parle de réputation. Dans l'enquête, effectivement, je fais jouer un couple assez classique pour les historiens que, personnellement, j'ai du mal à utiliser. C'est celui qui opposerait réalité et représentation. Pourquoi ? Parce que ce que je montre avec ce livre, c'est que c'est bien la conviction que l'île aux 16 était un ghetto, alors que on a montré qu'il y avait 23% de familles juives, même si elles sont inégalement réparties, qui va déclencher l'opération d'aménagement. C'est-à-dire qu'une réputation, finalement, provoque une transformation de la ville. La partition entre les deux ordres, à mon avis, n'a aucune efficacité heuristique et je trouve dans cette enquête l'occasion de le démontrer. Par ailleurs, on a montré, et puis je crois que Maurizio a fait la même démonstration, que la fabrique des îlots insalubres, finalement, est une catégorie de l'action publique qui est commode, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça permet aussi à la préfecture de la Seine de dire « Regardez, on fait quelque chose ». Alors que s'ils avaient commencé à retaper des immeubles dans tout Paris dispersés, il n'y avait aucune visibilité. C'est un peu de la com', hein. Donc, il y a aussi une fabrication des labels, hein, qui permet finalement de convaincre qu'il faut mettre en œuvre une politique. Le deuxième point de méthode, c'est la question du découpage chronologique. Mon livre, je l'ai dit, couvre la période 1900-1980, et j'ai voulu montrer qu'il était important d'inscrire l'analyse dans une séquence chronologique qui déborde finalement, en tout cas qui ne tienne pas compte de l'histoire politique. Les continuités sont tissées par les hommes. J'ai Reverdy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui fait à la fois Drancy et l'îlot 16, il est directeur de l'urbanisme en 53 et il continue à s'occuper des îlots insalubres. Hein. Donc là-dessus, il y a une continuité. Et je l'ai dit aussi, la catégorie îlot insalubre a perduré jusque dans les années 80. Au fil des décennies, ce sont d'autres populations qui se sont installées, qui étaient stigmatisées. On trouve dans les années 50 et 60, pour justifier le lancement des travaux, le fait qu'il y a une forte présence de travailleurs nord-africains. Et je l'ai juste esquissé tout à l'heure, dans les années... En 62, la loi Malraux est adoptée. En 64, le Marais devient un secteur sauvegardé. Et les travaux vont lentement se mettre en œuvre. Vous avez vu la photographie tout à l'heure de l'état de l'immeuble en 76. Mais au moment où on va vouloir lancer les opérations de restauration des bâtiments, les locataires qui avaient été réinstallés à la Libération, qui sont, je vous le rappelle, des locataires précaires, normalement, ils sont obligés de partir. Or, ces gens-là vont se mobiliser. Ils vont créer des comités de résistance. Et notamment contre une opération du grand collectionneur d'art contemporain Adrien Mague, qui a une fondation au sud de la France, hein, et qui avait vu dans l'îlot 16 l'opportunité de construire une annexe de sa fondation en plein Marais. Eh bien, les mobilisés, qui vont s'appuyer avec des jeunes architectes qui étaient en train de faire leur mémoire d'architecture, vont réussir à faire échouer l'opération et le Conseil de Paris renoncera. J'étais en train de finir d'écrire le livre quand ces mobilisés, qui aujourd'hui ont un certain âge, ont pris contact avec moi. Et du coup, j'ai fait leur connaissance. Ils sont venus parler à mon séminaire. Là, c'était vraiment super. Donc, à la fois les architectes et ceux qui habitent toujours hein, dans les immeubles. Donc, voilà. À nouveau, quand on a voulu mettre en œuvre le secteur sauvegardé, là encore, on parlait des figures charismatiques de l'aménagement urbain comme Haussmann. La figure des secteurs sauvegardés, c'est Malraux. Alors évidemment, tout le monde chante les louanges de Malraux, je ne vais pas dire du mal de Malraux. Mais enfin, derrière l'opération secteur sauvegardé, il faut bien se rendre compte qu'il y avait quand même le fait qu'on chassait les habitants. Parce que donc je suis deux secteurs dans les années 60-70 du point de vue de la réhabilitation. Il est évident que quand on retape les immeubles, les appartements, qu'on leur met le confort, l'eau, faut s'imaginer quand même que dans l'îlot 16, il y a des immeubles jusque dans la fin des années 60 qui ont pas l'eau, hein, dans les appartements, hein. Et même dans la cour, hein, il y a une dame dont j'ai une famille que je suis, elle râle parce qu'elle dit, même le robinet de la cour, vous me le coupez. Elle emboîte le pas à l'abbé Pierre, à l'appel de l'abbé Pierre en 54 pour dire, c'est pas possible. Enfin, voyez, le mal logement à Paris, c'est une réalité, hein. Et donc, ces populations, elles résistent parce que elles savent qu'elles pourront pas payer les loyers une fois que la rénovation sera faite. Donc du coup, il y aura des arrangements, c'est-à-dire c'est la ville qui paye la différence hein, de loyer. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça explique la gentrification. Une fois que celui qui a le bail décède, le loyer augmente. Et donc là, mécaniquement, on comprend pourquoi la ville se gentrifie par les changements de titulaire de bon. Enfin, dernier point, mon enquête relève de l'observation ethnographique, c'est pour ça qu'elle a duré un certain temps, et que finalement le livre est plus gros que ce que mon éditeur m'avait demandé, mais bon, il a quand même accepté de prendre les centaines de milliers de signes que je lui ai envoyés au final. J'avais le souci d'embrasser tous les acteurs, depuis le petit fonctionnaire de la préfecture de la Seine jusqu'au locataire le plus démuni, et c'est un peu le même parti pris qui anime mes enquêtes, que ce soit sur la ville, ou aujourd'hui plus particulièrement sur la persécution à Paris, c'est l'idée de s'écarter d'une histoire des projets et des discours, d'une histoire des politiques publiques qui est faite uniquement par le haut, avec des rails finalement qui sont posés par les promoteurs, pour finalement comprendre comment la ville se fabrique, comment elle s'échafaude dans l'interaction entre une pluralité d'acteurs. C'est une histoire aussi située chronologiquement et spatialement, et une histoire, je dirais, radicalement sociale, au sens où elle privilégie le social, mais aussi les moyens de le décrire, qui sont le recours aux sources produites par une gamme variée d'acteurs, et non pas seulement ceux qui sont aux commandes, ceux que j'appelle les vainqueurs. Il y a de nombreuses pétitions,
Et si je me suis lancée aussi dans cette enquête, c'est que dans les pétitions, les habitants, ils disent « Vous êtes dingue, vous arriverez jamais à faire un aménagement urbain. Il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de matériaux, on ne peut pas circuler. » Et d'ailleurs, j'ai bien vu que les architectes, les trois architectes en charge de l'opération, très vite, ils croulent sous les doléances des entrepreneurs qu'ils ont lancés sur les opérations et qu'ils n'arrivent pas à payer. C'est-à-dire que les habitants avaient raison du haut, on va dire, de leur bon sens pour dire que c'était pas jouable de lancer. Donc, ça m'a aiguillé sur l'idée qu'il y avait d'autres motifs. Les autres motifs, c'est le fait de profiter, on va dire, de la législation antisémite. C'est aussi cette enquête ethnographique un moyen pour faire jouer les catégories et pour opérer finalement un dépaysement dans le passé. Alors là, je citerai Bernard Le Petit, avec qui j'ai travaillé sur la scène. Je le cite, il existe des recherches qui, au lieu de réduire la complexité de la ville, s'efforcent d'en jouer pour comprendre les processus par lesquels les acteurs redéfinissent en permanence, à la fois sans le savoir et en le voulant, l'organisation du social entendue au sens le plus large. Plus que tout autre, peut-être, l'histoire urbaine fournit l'opportunité de rompre la tautologie des descriptions en termes de catégories prédéterminées, à condition de toutes les remettre en cause. Le ghetto, j'ai remis en cause. L'insalubrité, j'ai remis en cause. C'est vrai que si on prend ça pour argent comptant, on peut pas remettre ces catégories en cause et finalement essayer de comprendre comment elles ont été forgées et pourquoi elles ont été forgées. La citation de Bernard Le Petit vient d'un texte qui a été publié en 96, juste après sa mort. C'est une traduction d'un texte qu'il avait publié en italien, « La ville, cadre, objet, sujet ». C'est dans la revue Enquête, numéro 4, 1996. C'est un article assez assez solide sur les transformations de l'histoire urbaine. Alors, en conclusion, aujourd'hui, je vais opérer... Alors bon, j'ai parlé de la zone, donc là, ça va rester un chantier histoire urbaine, toujours à la charnière entre transformation du paysage et transformation du social. Mais je fais encore un nouveau pas de côté, après avoir abandonné le XVIIIe siècle. Je préciserai simplement, c'est qu'au début, quand j'ai voulu travailler sur la Seine à Paris, j'étais partie pour travailler sur le XIXe siècle. J'avais des sources du service de la navigation de la Seine, et que c'est en travaillant avec Bernard Le Petit que progressivement on s'est rendu compte que c'était plus pertinent de remonter sur le XVIIIe siècle pour comprendre comment entre 1750 et 1850, précisément, cet espace urbain s'est transformé. Donc en fait, j'ai adapté la chronologie de l'objet en fonction finalement des questions auxquelles je voulais répondre. Alors le nouveau chantier, c'est donc que j'ouvre collectivement, c'est les modalités de la persécution, mais alors... je ne vais pas être une nouvelle Klarsfeld, loin de là, mais c'est des modalités appuyées, d'observation appuyées sur l'histoire urbaine. Partant de l'histoire urbaine, c'est ce même effort que je vais essayer de faire, c'est-à-dire essayer de, en scrutant très précisément l'espace, le tissu urbain, comprendre les mécanismes de la persécution au contact entre l'administration et les persécutés, dans l'interaction entre les persécutés et leurs voisins. Tout à l'heure, tu as parlé d'endogamie spatiale, la question du voisinage est centrale. Et ce qu'on propose collectivement, c'est bien un changement d'échelle d'observation qui induit aussi de nouvelles hypothèses sur l'explication de ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on observe à l'échelle des appartements et des transformations de ce qui se passe au niveau des appartements. Je vous donnerai un seul exemple de cette lettre qui est assez peu lisible. Mais voilà, c'est le fond sur lequel on travaille actuellement collectivement. Une lettre qui est datée, j'ai pas la date, mais elle doit dater de 43. C'est coupé, c'était en haut. Monsieur le préfet de la Seine, il existe près de chez moi, au 82 rue Perronnet, au 5e étage. Donc c'est une dame qui habite dans le même immeuble. Un appartement de 3 pièces et cuisine. Un loyer qui n'allait pas à 2500, dont le gérant, monsieur Giraud, qui habite donc au 165 avenue 2, hein. Le logement appartenait à madame Marc Manor, israélite arrêtée en mars 43. Depuis son arrestation, il y a les scellés, mais son appartement ne contient que peu de meubles. Et là, on voit que cette dame est sa voisine et qu'elle connaît l'appartement puisqu'elle est capable de décrire les meubles qui attendent donc la fin des hostilités. On attend la fin des hostilités pour une relocation. Elle ajoute, d'autre part, monsieur Grandecourt, propriétaire de la boucherie anglaise, on est à Neuilly, au 30 rue du marché, sur Seine, a pu obtenir pour son fils, devant se marier, un appartement de juifs Évidemment, la chose s'explique. Ce monsieur a pu fournir un bœuf. Moi, malheureusement, je ne suis même pas capable de fournir un œuf. Donc là, ça joue sur le vieux dicton « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Pour moi, il y a, alors je ne sais plus ce qu'elle dit, « Monsieur le préfet de la Seine, quand il y aura des sinistrés à Neuilly sur Seine, alors hein, Monsieur le préfet de la Seine, je me recommande tout particulièrement à vous. » Elle raconte que pour obtenir un logement de juif, donc vous voyez, là, il y a une catégorie qui est très nette, c'est le logement de juif. Alors, tout ça pour dire qu'à partir de l'îlot 16, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais on est tombé sur un fonds d'archives, le Perrotin 901-62-1, qui s'intitulait « Réquisition d'appartements 42-44 ». J'ai sorti un carton, je me suis dit « Peut-être que mes habitants de l'îlot 16 ont été relogés et que là, je vais trouver des traces de ces relogements. » Et nous sommes tombés sur 65 cartons qui, en fait, émanent de la préfecture de la Seine qui, à partir de mi-43, met en place un service, rue Pernelle, de l'habitation qui a pour objectif principal de réaffecter les appartements occupés par des familles juives disparues à des sinistrés ou des pistonnés. Pour le moment, on va dire c'est moitié-moitié. Les sinistrés, c'est ceux qui ont perdu leur logement. Et les pistonnés, c'est ceux qui connaissent bien les Allemands. Alors, il faut voir, on a des lettres comme ça de propriétaires qui disent « Je suis allé place de l'Opéra, où vous aviez la commandanture. Ensuite, je suis allé place d'Iéna, où vous avez le service qui vidait les appartements des familles juives. » Et donc, vous découvrez toute une société parisienne qui navigue allègrement auprès des autorités allemandes. Pour faire quoi? Eh bien, pour libérer les appartements, notamment du bail qui courait toujours. Donc, on nommait un administrateur provisoire. Et ensuite, on libérait l'appartement et on relouait l'appartement. Donc là, on a dans ce fonds à peu près 8 à 9 000 appartements dans tout Paris. Et ça va nous permettre, si vous voulez, d'observer. Là, vous avez une voisine, mais on a des voisins. On a, donc j'ai dit, des pistonnés. On a des sinistrés. Qui ont une carte de sinistrés, notamment de la banlieue parisienne, mais on a beaucoup de banlieusards. Ils remplissent un formulaire de demande de relogement et on leur demande est-ce que vous avez un logement en vue. Et il y a une petite note, si c'est un logement israélite, donnez-nous le nom. Et donc, toute cette politique de logement est totalement intriquée dans la politique de persécution des Juifs, sachant qu'on va aller au-delà de 44, puisque ce qui s'est passé souvent, c'est que les familles juives sont revenues et que là, elles ont trouvé des locataires en bonne et due forme avec un bail, et que là, bon, il y a eu des procès, et que ça a probablement entretenu l'antisémitisme au-delà de 44, au-delà même de 45 quand les déportés sont rentrés, parce que tout simplement, à Paris, mais alors ça on s'en rend compte à une échelle micro, ben, il y a eu des mini-conflits, il y a eu des procès, et une ordonnance en novembre 44 qui dresse une sorte de liste des victimes. Alors vous avez les prisonniers, vous avez les déportés pour fait de résistance, les Juifs arrivent en dernier dans la liste, et je pense que on n'imaginait pas qu'il allait avoir autant de conflits entre les familles juives qui revenaient et ceux qui avaient été réinstallés. Donc voilà, là on est vraiment au métissage entre deux champs d'histoire, l'histoire des persécutions et l'histoire urbaine, ce qui permet effectivement, il faut quand même aussi préciser qu'il n'y a finalement quasiment pas d'études sur la persécution juive à Paris, sachant qu'il y avait la moitié des juifs de France qui habitaient Paris et la région parisienne. Donc, il y avait une très... Et ce qu'on veut faire, c'est travailler à une échelle locale, finalement, pour prendre le terrain parisien comme n'importe quel terrain. Donc voilà, vous voyez comment on passe doucement, imperceptiblement, d'une enquête à l'autre, hein, avec quand même au cœur des interrogations sur la ville et sur les transformations. Alors là, il n'y aura pas beaucoup de transformations matérielles. C'est plutôt un turnover, finalement, d'occupants. Hein. Et surtout, finalement, des interrogations qui sont centrées sur le logement. Tous les livres qui concernent Paris sous l'occupation, il y en a un certain nombre qui sont plus ou moins anecdotiques ou plus ou moins, on va dire, grand public. On vous parle de tout. On vous parle des loisirs, de la presse, du ravitaillement, des transports. Le logement est un sujet qui n'existe pas, alors que c'est quand même la garantie de l'inscription, finalement, des populations dans un territoire urbain. Voilà, donc c'est un peu à partir de ça qu'on... Là, la base de données, elle est en cours de finalisation, mais on espère avoir une réponse positive à un appel à projet, puisque maintenant nous sommes voués à ça, pour pouvoir monter en puissance dans l'enquête. Voilà, merci.